Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio de la Paix pour cette première édition de ce mercredi. À 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était hier mardi dans la capitale politique ivoirienne pour s'enquérir de l'état des infrastructures devant accueillir cette compétition en Côte d'Ivoire. Et puis une mission conjointe de ONU Femmes, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, a fait un important don de matériel médical à Béoumi. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec Mata Touré. Dans l'actualité sur le continent, des pluies diluviennes font au moins 22 morts dans le centre de la République démocratique du Congo. La revue des titres de ce 27 décembre sera assurée par Jean-Claude Comé, après qui nous retrouverons aussi Potin, qui se recevra en fin de journal dans l'invité de la rédaction, Joseph Hamon, le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il sera question de la 9e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment Archibat 2023. Ouvrons ce journal avec les activités du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, qui a visité hier mardi le stade Charles Konambani de Yamoussoukro ainsi que l'hôtel président afin de s'assurer de l'état de fonctionnement de ses infrastructures, et ce en prélude à l'organisation de la future Coupe d'Afrique de football prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne. Au terme de cette visite, le Premier ministre se dit satisfait. Il a recommandé cependant la vigilance au personnel en charge de la gestion de ces infrastructures. Nous l'écoutons au micro d'Emile Yao.
Du point de vue technique, du point de vue des équipements, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Mais retenez une chose, le diable se cache dans les détails. Donc on va rester vigilants jusqu'à la fin de la compétition. Nous avons demandé que des équipes d'astreinte soient mises en place ici, dans tous les secteurs d'activité. Nous aurons des spécialistes en permanence. Parce que la Côte d'Ivoire veut être à jour en toutes circonstances vis-à-vis des prestations attendues de ce grand pays. Donc nous avons donné des indications à tous nos amis qui sont dans cet espace pour que la vigilance soit de mise. Sinon, ce que nous avons vu est rassurant.
À l'instant, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé qui réagissait depuis Yamoussoukro au micro d'Emile Yao. Après Yamoussoukro, nous nous rendons dans la capitale du Poro, à Korogo, où dans le cadre de la politique de rapprochement de ses services et l'extension de ses activités de prise en charge et d'indemnisation des victimes d'accidents de la voie publique, le Fonds de garantie automobile, organisme particulier d'assurance créé par l'État ivoirien et placé sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, a procédé le 21 décembre dernier à l'ouverture de son bureau relais dans cette ville, logée au sein du centre hospitalier régional. Les détails avec Marcel Bonny, notre correspondant sur place.
En Côte d'Ivoire, par un décret signé en 2009, le Fonds de garantie automobile a été créé par l'État et les assurances. On en sait un peu plus sur son contenu avec sa directrice juridique et des ressources humaines, Koné Karigetou.
Lorsque nous remarquons que certains véhicules ne s'assurent pas, il peut arriver que ces véhicules là commettent la fuite. Et dans cette situation, il y a deux cas. Ou bien alors il prend la fuite, ou bien alors il a le courage de rester sur place, mais malheureusement, il n'a pas assuré son véhicule. Et quelquefois, le patrimoine des personnes physiques ne peuvent pas suffire pour procéder à l'indemnisation. C'est pour ça que cette loi a été faite.
L'ouverture de ses bureaux au CHR de Korogo obéit à une logique soulignée par son directeur général, l'honorable Maïzan Kofi.
La mission n'était pas pour nous retrouver dans les centres hospitaliers. Notre rôle, c'était de rester chez nous et de prendre en charge les victimes. La mission de base, c'est l'indemnisation. Ça suppose que la victime se prend en charge et après, elle fait recours à nous. Nous avions décidé de mettre un mécanisme qui nous permette d'être dans les urgences et de prendre le relais, de les soigner et après de recourir à l'indemnisation.
Une action saluée par le docteur Goku Sébastien, directeur régional de la santé du Poro.
On peut nous prendre un accidenté sans parent venir le déposer au CHR. En ce moment, l'acteur principal, le médecin, le directeur du CHR, il devient en même temps acteur, mais il devient aussi parent du malade. Et là, s'il n'est pas secondé par un outil que vous venez de décrire, c'est un souci pour nous.
Il a pour finir donné les garanties d'une bonne étroite étroite collaboration avec le Fonds de garantie automobile pour mieux servir les populations. Marcel Bonny-Gorogo, Radio de la Paix.
Nous restons dans le domaine de l'automobile. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a adopté le 15 décembre 2021 un décret portant réglementation des transports publics particuliers de personnes, en abrégé VTC. Ce décret précise les conditions d'accès à ces activités ainsi que les modalités de leur exercice en vue de réorganiser le secteur. Ainsi donc, il sera désormais interdit, sinon il est désormais interdit, aux véhicules d'une puissance inférieure à 114 chevaux et de moins de 5 ans de faire du VTC. Une décision qui jusqu'à ce jour n'est pas appliquée, selon Bailly Assim, président du syndicat national des chauffeurs de taxi compteurs nouvelle génération. C'était le 26 décembre dernier à leur siège à Yopougon-Selmer, au cours d'une rencontre organisée par le dit syndicat. Écoutons les précisions de Bailly Assim au micro de Jean-Claude Mabéa.
Lorsque nous avons tenu la réunion le 2 et 3 novembre dernier, l'État de Côte d'Ivoire a donné une ordonnance à l'ART, l'autorité de régulation du transport intérieur. Et l'ART dispose du pouvoir consultatif, ce que nous avons fait, du pouvoir d'injection, parce que l'ART aussi nous a dit que la société VTC a son serveur qui est hors du pays. Et que si cela ne vient pas en Côte d'Ivoire, ils seront supprimés sur la place nationale. Donc ils ont dit qu'ils ont le pouvoir de sanction. Et c'est ce pouvoir de sanction que nous demandons. Parce que l'ordonnance du 13 septembre 2023, le président a pris ce décret pour que l'ARTI, ils nous ont parlé que la date échue depuis le 15 décembre 2022. Ça veut dire qu'on leur a donné un an pour qu'ils se mettent en règle. Pour cela, nous demandons à l'ARTI, parce que l'ordonnance a été signée par le chef de l'État, qu'ils appliquent leur troisième pouvoir, qui est le pouvoir de sanction. Il faut que la sanction vienne, parce que nous sommes dans un état de droit.
À l'instant, Bailly Assim, président du syndicat national des chauffeurs de taxi compteur nouvelle génération. Nous prenons la direction du centre du pays où une mission conjointe ONU Femmes, ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et celui de l'Emploi, de la Protection sociale est depuis quelques jours dans la région du Béké pour l'inauguration du centre social de Béoumi, réhabilité et également pour la remise de matériel de travail aux structures dans les localités de Boaké, Botro et Sakassou. La mission a pour objectif principal de répondre aux besoins des centres sociaux révélé lors d'une étude sur la question dans la région du Béké. Plus de détails avec Mata Touré.
Cette mission conjointe ONU Femmes Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et celui de l'Emploi et de la Protection sociale vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de cette structure sociale. Donc, le centre social de Boaké, dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, afin de répondre au mieux aux besoins de ces communautés. Yacouba Doumbia est le responsable des programmes à ONU Femmes.
Il s'agit de faire en sorte que les travailleurs sociaux qui sont membres d'un dispositif de la protection sociale en Côte d'Ivoire puisse jouer leur rôle dans la prévention et de la lutte contre les violences basées sur le genre, dans le renforcement des opportunités pour l'autonomisation des femmes.
Le représentant du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Gaypou Kevin, a recommandé aux bénéficiaires d'aller vers la communauté pour leur faire part des offres de services que leur proposent les centres sociaux, mais également pour les aider à se porter bien, tant socialement que psychologiquement.
On a besoin vraiment davantage travailler à faire en sorte que nos communautés puissent effectivement comprendre que le centre social, c'est la maison famille, où ils peuvent venir vraiment justement partager tout ce qu'ils ont comme difficultés, comme problèmes, pour qu'ensemble, avec les travailleurs sociaux, nous puissions les aider à trouver des solutions à cela. Les travailleurs sociaux sont là pour la population, pour la communauté, garantir également aux communautés de meilleures conditions et de meilleurs cadres de vie. Et donc, c'est cela leur rôle.
Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Appui intérêt à la gestion du développement local, à la protection également des sociétés pacifiques et à la sécurité humaine dans la région du Béké.
Merci à vous, Mata Touré. Et nous restons avec Mata Touré, justement, qui a tendu son micro à la directrice de la formation au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, docteur Honoré Ghislaine Kwame. Celle-ci a annoncé que 10 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour rendre visibles les institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, ainsi que mettre en lumière la récente réforme adoptée en Conseil des ministres depuis le 28 septembre 2023. À cet effet, c'était lors lors d'une conférence de presse récemment à l'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé.
Déjà au niveau juridique institutionnel, un décret sera pris qui va travailler sur les aspects juridiques institutionnels, les aspects pédagogiques et les aspects de l'insertion professionnelle, de sorte à ce que l'autorité ministérielle puisse prendre des décrets et des arrêtés d'application de ce décret-là. L'amélioration des conditions, de l'environnement même des IFEF en termes d'infrastructures, ces infrastructures existent depuis très longtemps, une réhabilitation véritable affaire et des nouvelles IFEF aussi à construire. La réforme va porter sur le contenu même de la formation au plan pédagogique. De nouvelles filières d'apprentissage sont identifiées dans le cadre de la réforme. Le contenu de la formation va être revu. La formation initiale également, c'est-à-dire la formation des formateurs, de sorte à délivrer une formation de qualité. Également au niveau du diplôme. Jusqu'à présent, c'est des attestations qui sont délivrées aux auditrices en fin de formation. La réforme prévoit la certification des auditrices. Il y aura de nouveaux diplômes qui seront délivrés quand le contenu de la formation sera mis aux normes des autres formations pour lesquelles ces diplômes sont délivrés.
Vous écoutiez la directrice de la formation au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, docteur Honoré Ghislaine Kouamé. Notons que les 10 milliards de francs CFA qui vont être mobilisés, l'État de Côte d'Ivoire fournira 1 milliard et le reste sera soutenu en grande partie par les partenaires au développement que sont le système des Nations Unies, dont ONU Femmes, l'UNICEF, le PNUD, ainsi que des coopérations bilatérales, dont les ambassades et les ONG internationales. Dans l'actualité sur le continent, des pluies diluviennes ont fait au moins 22 morts et causé d'importants dégâts matériels hier mardi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, dans le centre de la République démocratique du Congo, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités congolaises de la province dans un communiqué. Parmi les victimes des intempéries figurent une femme et ses 8 enfants engloutis dans une maison, également un père et ses 4 enfants morts dans un autre quartier. De retour dans le studio de Radio de la Paix, ici en Côte d'Ivoire, nous retrouvons Jean-Claude Comé qui s'est assuré pour vous de parcourir les unes de vos journaux parus ce mercredi. Nous l'accueillons pour sa revue des titres. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Linda, bonjour à tous. L'information est relayée par plusieurs journaux et nous pouvons citer à titre d'exemple l'Inter, le Mandat et le Patriote. Et c'est cette information, c'est que le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire va subir une hausse de 10% à partir de janvier 2024. Le Nouveau Réveil, réagissant à cette information, s'inquiète de l'impact de cette augmentation sur le coût de la vie. Le Rassemblement par rapport aux interrogations sur les raisons de cette augmentation relaie la déclaration du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et qui explique que c'est une hausse douloureuse mais nécessaire. Mais souligne le Matin, le gouvernement continuera de soutenir les populations. 10% d'ajustement aux factures d'électricité, les 3 risques que le gouvernement veut éviter, rapporte aussi Fraternité Matin, journal qui rend également compte de la visite des chantiers, des stades de Yamoussoukro et de Boaké par le vice-président et le premier ministre qui sont rassurés après par rapport à ces infrastructures qu'ils ont vues. Le vice-président et le premier ministre vérifient tout à Yamoussoukro et à Boaké, ce qu'ils ont constaté, donc affichent le rassemblement. François Rinfo souligne que le constat fait par Tiemoko Mieyde et Begré Mambé hier, le Mandat, pour donner une idée de ce qui a été dit hier par ces deux personnalités, relaie ces bouts de phrases de Mieyde Koné. Donc, nos hôtes doivent savoir que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Il y a quelques petits réglages à faire. Et quand le Premier ministre Mambé lance cet appel au comité d'organisation, il ne faut rien négliger. Au-delà de ces deux informations, la politique intéresse aussi les confrères de la presse écrite, avec notamment le PDC RDA qui a depuis la semaine dernière Et nouveau président, la personne de Tidiane Thiam, qui pour l'avenir a une mission impossible sur certains dossiers, comme l'alliance avec le PPACI, la présidentielle de 2025 et la reconquête du terrain politique. Le nouveau réveil, par contre, a la conviction que Tidiane Thiam peut y arriver, mais il faut une union sacrée autour de sa personne. C'est l'exhortation du confrère. Puis pour terminer, selon donc le rassemblement et le matin, il se passerait quelques problèmes au niveau du PPACI. Ça ne va pas dans ce parti, selon ces deux journaux.
Merci à vous Jean-Claude Comé pour cette revue des titres dans l'édition de 8h. Vous serez de retour pour le même exercice. L'invité de la rédaction à présent, et c'est pour parler de la 9e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment Archibat, qui a pris fin le 16 décembre dernier au parc des expositions d'Abidjan Port-Boué. Une édition qui a enregistré une forte présence du public et mis en avant un thème des plus actuels, à savoir architecture durable et industrie locale du bâtiment. Amon Joseph est le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il est interrogé par Aoussi Potin et revient sur les satisfactions de cette 9e édition de Archibat.
Amon Joseph, bonjour.
Oui, bonjour.
Archibat, édition 2023, vient de clore ses portes, marquant ainsi la fin de la 9e édition de ce grand rendez-vous consacré au bâtiment en Côte d'Ivoire. Quelles sont les principales leçons que l'on peut en tirer?
Alors la toute première, c'est l'attention et l'engouement du public envers le thème qui a été choisi cette année, à savoir architecture durable et industrie locale. On a vu un fort engouement, comme je le disais, du public qui est venu nombreux assister aussi bien aux différents panels et visiter les différents stands de pavillons qui ont été réalisés. Et surtout un cadre nouveau, le palais d'exposition d'Abidjan, qui offre vraiment toutes les commodités nécessaires à la tenue de salons de cette taille.
Tout le long de ce salon, l'on a eu à peu près combien de visiteurs en termes de statistiques?
Alors, on visait 30 000 visiteurs durant les 5 jours d'exposition. Les derniers chiffres nous disaient qu'on avait atteint cet objectif.
Alors, le thème donc de cette édition 2023 était le suivant, architecture durable et industrie locale. Pourquoi le choix de ce thème? Quels étaient vos objectifs en tant qu'organisateur?
Alors, on tombe pile dans l'actualité présente, parce que le problème de la préservation de notre planète est aujourd'hui sur la table de tous les gouvernements. La planète est en danger, si on n'y fait rien, on risque d'aller vers une catastrophe à très court terme. Et les appels qui sont faits aussi bien par les Nations Unies qu'au travers des différentes rencontres qui ont lieu régulièrement invitent tous les différents acteurs au développement de regarder de plus près toute cette grande problématique de la planète et de toutes ses conséquences au niveau de l'environnement, de notre mode de vie, de l'impact de choix de certaines options au niveau des matériaux. Et il était temps pour nous, en tant qu'architectes, de nous pencher véritablement sur ce sujet en tant qu'acteurs au développement. Donc, acteurs étaient amenés à faire des propositions au niveau des compositions architecturales, de modes de réalisation, des principes constructifs et autres, et dans les choix des matériaux qui se rapportent à nos différents projets. Donc, on a choisi un sujet qui est d'actualité et qui va sensibiliser les uns et les autres, aussi bien les architectes, mais également le politique, les industriels, à la grande menace environnementale dans laquelle nous sommes en train d'entrer.
Alors, lors de la cérémonie d'ouverture de ce salon de l'Archibat édition 2023, le ministre de tutelle, savoir donc le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a relevé l'importance de respecter les normes de construction pour s'assurer de la sécurité des bâtiments, mais aussi il a relevé le fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un fort besoin de logements. Il a même parlé d'un besoin de plus de 800 000 logements sur le marché ivoirien. Alors, vous, en tant qu'architecte, avec Archibat, pour cette édition, vous avez essayé aussi d'apporter des solutions pour que chaque Ivoirien puisse obtenir un logement décent?
Oui, on s'inscrit dans la droite ligne de la déclaration du ministre du gouvernement. Lorsqu'on vous parle d'un déficit de plus de 800 000 logements, c'est énorme. Il faut savoir que lorsque vous réalisez 1 ou 10 kilowatts d'économie pour chacune des constructions, vous pouvez imaginer quelle est l'économie d'échelle qui se fait au niveau de la nation. C'est autant d'énergie qui peut être déployée vers d'autres activités au niveau national. Et les architectes sont appelés à avoir une réflexion, mais vraiment poussée sur ce domaine. Parce que chaque fois que l'on conçoit une maison, il suffit simplement de faire un bon choix de matériaux. C'est plusieurs milliers de kilowatts qui sont économisés en matière de développement durable, dans le choix conceptuel, dans le choix des matériaux, dans le format de vie, dans la mobilité urbaine. Tout ça sont extrêmement importants à cette échelle. Donc ce n'est plus maintenant à l'échelle 1 qu'on réfléchit, mais c'est à une échelle vraiment d'une ville entière, sinon de villes entières, dans lesquelles nous sommes amenés à porter nos réflexions. Et à terme, bien entendu, le bénéficiaire doit être la population qui est dans l'attente aussi bien de combler ce déficit en matière d'unité d'habitation, mais également au niveau macroéconomique de tous nos pays qui pourront réaffecter les économies d'énergie ou toute autre économie réalisée vers d'autres secteurs d'activité qui sont en attente de besoins énergétiques, par exemple.
Le prochain rendez-vous de Archibat, ce sera quand ?
Alors, ce serait en novembre-décembre 2025, puisque nous avons une échéance tous les deux ans pour cet important salon. Nous allons commencer très tôt à nous y préparer afin de sensibiliser davantage les futurs opérateurs qui seraient intéressés par ce salon, surtout qu'aujourd'hui, il a dépassé nos frontières, déjà par la présence des différents ordres ouest-africains et même asiatiques qui sont venus nous apporter leur soutien. Et avec ça, nous pensons avoir un choix beaucoup plus large et beaucoup plus performant que dans les éditions à venir. En tout cas, l'édition 2025, je suis persuadé, sera un nouveau grand rendez-vous qu'il ne faudra pas laisser de côté.
Joseph Amono, vous disons merci. Et je rappelle donc le président du CNOA, à savoir donc le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.
Je vous en prie, c'est un tout honneur pour nous et pour l'Ordre des architectes, pour le temps que vous nous consacrez et surtout la nécessité de pouvoir parler davantage au grand public.
C'était l'invité de la rédaction, Joseph Hamon, le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il était interrogé par Aoussi Potin. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. À deux semaines de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé était hier mardi dans la capitale politique ivoirienne pour s'enquérir de l'état des infrastructures devant accueillir cette compétition en Côte d'Ivoire. Une mission conjointe de ONU Femmes, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a fait un important don de matériel médical à Béoumi. Dans l'actualité internationale, pour terminer, des pluies diluviennes font au moins 22 morts dans le centre de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.